L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Sophie Bernard.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Je vous rappelle que Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% digitale dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble avec nos invités l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Alors normalement, je suis avec Sophie Bernard qui participe à cette émission et qui bien sûr la prépare avec moi. On l'excuse et on lui souhaite un excellent anniversaire. Et on va se pencher cette semaine sur une fusion qui a fait grand bruit dans le monde du conseil en gestion de patrimoine. Fidroit et Harvest, deux noms emblématiques, ont annoncé leur rapprochement avec comme objectif de réunir l'approche servicielle et les enjeux technologiques. Qu'est-ce que cela va changer pour les clients qui utilisent les deux services? Quelle feuille de route pour 2025? Plus largement, comment ils peuvent aider les CGP à traverser la crise actuelle grâce justement à la technologie? Pour répondre à ces questions, nous accueillons tout simplement les deux dirigeants du nouvel ensemble. Virginie Fauvel, la CEO de Harvest. Bonjour Virginie Fauvel.
Bonjour. Bonjour, ravi de vous voir.
Et Olivier Rosenfeld, président associé chez Fidroit. Bonjour Olivier.
Bonjour Fabrice.
Alors, on n'a pas pu, on le sait, dans ce new normal qu'on subit maintenant depuis un petit peu plus d'un an, être avec nous. Vous ne pouvez pas être avec nous en plateau. Alors messieurs, dames, où vous êtes? On commence avec vous Virginie Fauvel.
Eh bien, écoutez, moi, je suis avec mes équipes à Sophie Antipolis, à Nice, puisque Harvest est basé sur trois sites. Un site à Paris, deux sites à Paris exactement, un site à Clermont-Ferrand et un site à Nice. Donc, 100% des équipes Harvest sont sur le territoire national. Je le souligne parce que c'est quelque chose qui est important. Et donc, aujourd'hui, je vais visiter mes équipes niçoises.
Très bien, oui, il faut être sur le terrain, au contact des équipes, c'est primordial. Olivier, quant à vous, où est-ce que vous vous trouvez actuellement?
Écoutez, je suis à Clermont-Ferrand, à quelques centaines de mètres du site d'Harvest, qui demain peut-être aura vocation de rejoindre dans un sens ou dans l'autre, ce qui nous permettra d'avoir une unité d'à peu près 120 personnes sur Clermont, ce qui est là aussi extrêmement appréciable.
Alors justement, on va voir quel est le plan que vous avez décidé ou élaboré ensemble. Qu'est-ce que ça va changer pour l'ensemble des clients, je le disais. Et puis plus largement, comment on traverse cette crise avec l'apport du numérique. Comment on peut encore faire mieux aujourd'hui dans la gestion de patrimoine? On va voir ça tous ensemble durant cette demi-heure d'émission. L'Hebdo Patrimoine, c'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Virginie Fauvel, on commence avec vous. Vous êtes depuis peu donc aux commandes de Harvest, numéro un du secteur des logiciels patrimoniaux en France, on le sait, depuis maintenant près de 30 ans. Vous avez la lourde tâche de succéder justement aux deux fondateurs, Brice Pinot et Jean-Michel Dupiot. Quels ont été vos premiers défis, vos premiers challenges, là, puisque vous êtes arrivé il y a quelques mois?
Oui, écoutez, c'est vrai que ce sont les fondateurs, 31 ans de construction d'Harvest, une très très belle histoire avec une success story. Et en fait, comme je leur dis, parce que je les vois très régulièrement, ils restent actionnaires d'Harvest, j'ai eu aucune mauvaise surprise depuis 6 mois. C'est-à-dire que la qualité des équipes est vraiment absolument incroyable. Les produits sont des beaux produits. Il y a tout un plan de modernisation et de digitalisation qui avait été mis en place. Donc, je dirais que depuis 6 mois, je vis un vrai bonheur quotidien avec une entreprise qui est en pleine santé financière, qui est très offensive sur ses marchés. On a eu la joie aussi. Moi, le premier dossier que j'avais sur mon bureau cet été, c'était le dossier Fidroit. J'ai rencontré Olivier en septembre à Paris. On s'est tout de suite, je pense, beaucoup plu. J'ai proposé à Olivier d'aller le voir et d'aller voir ses équipes sur place à Clermont parce que je trouve que c'est important. On a eu une très bonne réunion à Clermont et après, tout s'est enchaîné très simplement et très vite pour arriver le 16 décembre, qui est une date dont on se souviendra tous les deux d'avoir signé l'ensemble du projet. Donc l'enjeu, ça a été vraiment l'enjeu Fidroit. Ensuite, j'ai réorganisé un petit peu Harvest en créant une grande direction client, M&A stratégique, et sous la responsabilité d'une nouvelle directrice générale déléguée qui s'appelle Delphine Asseraf. Donc, il va mettre en place tout un système de NPS, d'associer en fait nos clients à l'évolution des produits, à la construction de nouveaux produits. Donc, on a commencé avec Olivier à faire des webinaires avec nos clients et de répondre en direct à leurs questions pour être toujours meilleur. Donc, premier sujet, un sujet donc, d'acquisition. Deuxième sujet, un sujet d'organisation. Et le troisième, c'est qu'avec Olivier et mon comité exécutif, on a mis en place la stratégie Harvest Fidroit qui s'appelle Conquête 2025, parce que je crois qu'il faut être ambitieux et avoir un esprit de conquête. Et on a monté ça sur trois piliers.
Attendez, parce qu'on va en parler plus largement dans un instant. Je voulais juste avoir aussi l'avis d'Olivier hein, sur ces quelques mois, parce que c'est une période, on va le dire, hein, quand même bouleversante pour chacun d'entre nous. Dans toutes les organisations, après ce coup de frein extrêmement brutal, premier confinement, c'était il y a presque un an, un état de sidération. Vous vous êtes remis en selle, j'allais dire, et avec ces nouveaux projets, effectivement. Olivier, justement, comment ça s'est passé pour vous là, ces derniers mois et cette annonce qui a surpris quand même le microcosme de la gestion de patrimoine.
Alors, c'était tout à la fois évidemment une surprise parce que ce chantier avait pris quelques mois sans que les professionnels ne soient informés à l'évidence. Et pour autant, ce qui est extrêmement positif pour chacun d'entre nous, Harvest et Fidroit, c'est la logique industrielle qui est apparue comme évidente pour les acteurs de la gestion de patrimoine, d'ailleurs qu'ils soient professionnels indépendants ou structures bancaires. La vérité, c'est que Harvest et Fidroit sont deux structures qui se respectent de longue date, qui se reconnaissent mutuellement dans leurs qualités respectives. Et comme vous l'avez dit, Fabrice, dans vos propos introductifs, il y a de vraies complémentarités entre d'un côté la mathématique patrimoniale, de l'autre côté la science patrimoniale, le logiciel, et pour Fidroit un peu plus de conseils, chez Harvest, les outils, pour nous un peu plus d'accompagnement opérationnel. Bref, de vraies synergies qui peuvent être mises au profit des professionnels. Et je crois que personne ne s'y trompe. C'est la raison pour laquelle, après une phase de surprise, je crois que la plupart de nos clients ont été véritablement conquis.
Alors justement, qu'est-ce que ça va changer pour eux quand on est client soit de l'un, soit de l'autre, soit ce qui peut arriver des deux? Qu'est-ce qu'on va voir pratiquement?
En fait, avec Olivier, on a vraiment l'ambition de créer un acteur qui soit sur l'intégralité des métiers du patrimoine. Donc Olivier a un centre de formation, Harvest a aussi un centre de formation. L'idée, c'est d'avoir un centre de formation qui soit encore plus global et qui puisse permettre de répondre à certains appels d'offres qui sont très grands, sur lesquels Harvest tout seul ou Fidroit tout seul aurait eu du mal, par exemple, à répondre. Autre exemple, FidNet donne un certain nombre d'alertes, d'informations très précieuses. On va pouvoir mettre ces alertes directement dans notre CRM qui s'appelle O2S pour contextualiser la bonne information au bon moment. Donc, c'est vraiment d'enrichir les offres, de répondre aussi à des enjeux d'acteurs qui peuvent être plus grands, de renforcer notre présence aussi auprès des CGP. Et puis, on a l'ambition aussi de conquérir l'Europe. Et pour conquérir l'Europe, il faut être fort sur son marché domestique. Donc, je ne sais pas, Olivier, si vous voulez compléter, mais c'est vraiment l'idée d'avoir un acteur solide, puissant.
Oui, ce qui est certain, c'est que nous mesurons, plus le temps avance, que c'est vrai tout autant encore des conseillers en gestion de patrimoine, des banquiers et d'autres, que leur métier n'est plus uniquement de vendre un produit, mais de proposer plus globalement, je dirais, un service. Et pour cela, il est nécessaire de créer un niveau de confiance amenant le particulier, l'investisseur, le contribuable à considérer qu'il est préférable pour lui d'être accompagné plutôt que de faire seul. Et notre rôle à partir de là, c'est de donner tous les moyens professionnels pour être plus performant, plus fiable, plus efficace au vu des mutations des demandes des clients. Et vous savez, je me reportais à mes manuels économiques historiques et je reprenais des travaux de Michael Porter qui, je trouve, s'applique très exactement à la situation que nous sommes en train de connaître dans le secteur de la gestion de patrimoine. Les changements de paradigme que nous connaissons amènent trois conséquences évidentes. La première, c'est un changement dans la hiérarchie des compétences et des savoir-faire. Et Virginie vient de rappeler l'ensemble des dispositifs qui existent d'ores et déjà chez Harvest et chez Fidroit que nous allons améliorer par nos synergies qui permettront de participer de ce changement. La deuxième idée, c'est de renforcer des stratégies de différenciation. Parce qu'il y a différents acteurs qui revendiquent l'exercice de ce métier. Eh bien, ceux qui seront clients demain d'Harvest et Finrois, je crois le dire, seront meilleurs que les autres. Le troisième point, c'est de modifier les business models. Or, là encore, nous allons permettre aux professionnels de s'épanouir, de pouvoir revendiquer un certain nombre de compétences beaucoup plus larges que celles sur lesquelles ils avaient investi antérieurement et historiquement.
D'accord. Une question, alors évidemment, quand on parle, hein, vous savez que Radio Patrimoine, c'est la chaîne des conseillers en gestion de patrimoine. Entre les lignes, ils nous disent, bon, voilà, c'est sûr qu'on aura peut-être quelque chose de mieux qui va nous aider à mieux vendre demain, être plus performant. Mais il y a quand même une question qui se pose, c'est est-ce que ça va coûter plus cher? J'imagine que cette question est également au cœur de la proposition.
Virginie, non, il y a aucune raison que ça coûte plus cher. C'est pas du tout l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'est de permettre au CGP de pas avoir énormément de partenaires, mais d'en avoir plus qu'un qui sera Harvest et Finrois avec un seul point d'entrée, tout intégré, jamais de ressaisie d'informations. Vraiment une expérience pour le CGP qui soit sans couture, mais c'est pas du tout une opération pour rendre les choses plus chères. C'est absolument pas l'enjeu.
D'accord, ça apportera de la valeur, mais ce n'est pas plus cher.
Non.
En tout cas, ce qui est sûr, oui, je trouve que la question telle qu'elle est posée laisserait supposer que l'acquisition de nos outils ou prestations représente un coût. Ce qui serait surtout important, c'est de le voir comme un investissement. Parce que plus le temps passe, plus les réflexions que nous menons avec Harvest montrent que nous serons un groupe en capacité de créer les conditions d'un développement pour les professionnels. Lorsque Virginie évoquait l'idée que les alertes pourraient venir enrichir nos alertes juridiques et fiscales, l'outil Money Pitch, lorsque les stratégies clients que nous retrouvons dans Finet seront enrichies des éléments calculatoires réalisés par Harvest, le service qui pourrait être rendu par les professionnels demain s'en trouveront renforcés et par voie de conséquence avec la capacité aussi de monétiser ces prestations.
Ouais, parce que Olivier a raison, de plus en plus les métiers des CGP sont complexes, sont lourds par la régulation, par les nouvelles lois, etc. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment en un seul outil de pouvoir leur faciliter la vie sur tous ces sujets avec des outils qui sont toujours à jour en fait.
Et ils en ont besoin en ce moment, de ces outils, plus que jamais peut-être, pour maintenir le lien dans un contexte effectivement de distanciation qui est vraiment pas évident. Tiens, une petite question au passage. Deux belles marques, hein, Finrois, Harvest, qui sont connues, identifiées. On vient de découvrir Stellantis dans le monde automobile. Est-ce qu'il va y avoir une refonte comme ça du nom ou vous gardez les deux entités?
Moi, je trouve que ce sont deux très belles marques, donc je pense que ça a de la valeur de conserver les deux marques. Très bien. On aura peut-être la holding à laquelle on va trouver un nom. On n'a pas encore trouvé le nom de la holding, mais en tout cas, les sociétés sœurs qui sont à l'intérieur de la holding conserveront leur marque.
Très bien. Virginie Fauvel, vous nous parliez tout à l'heure justement de cette stratégie. Hein. Il faut se donner aussi du champ, c'est sûr, quand on arrive à la tête d'un tel ensemble, en plus avec dans la corbeille de la mariée ou presque, eh bien voilà, un acteur de choix. Ce plan, du coup, Conquête 2025, est-ce que vous pouvez nous en détailler les grandes orientations?
Oui, en fait, c'est toujours important d'avoir une stratégie, un cap, comme vous l'avez dit, et dans ces périodes extrêmement troubles, hein, quand même, on pensait jamais vivre quelque chose comme ça, je pense, ni vous ni nos auditeurs. Donc l'idée, c'est de donner un cap à l'ensemble des salariés pour qu'ils voient quelle est la direction et où on va. Nos salariés reviennent un petit peu travailler, mais bon, pour des questions sanitaires, on n'est jamais tous ensemble. Donc du coup, c'est important de donner ce cap. Donc on a construit cette stratégie sur trois piliers. Il y a un pilier qui est d'avoir une entreprise qui soit joyeuse, enthousiaste, dans laquelle les collaborateurs ont envie de travailler. Donc, c'est vraiment un pilier qui est orienté pour les collaborateurs. Parce que je pense que dans la situation actuelle, on a tous envie d'être heureux au travail. Donc, on a souhaité que ce soit ce pilier-là. On a aussi
Comment ça se traduit, excusez-moi, parce qu'on a eu dans les directions récentes, on a vu apparaître des Chief Happiness Officers, des officiers voilà, du bien et qui sont plaisants. Est-ce que c'est ça ou comment ça se traduit en fait le fait d'une entreprise joyeuse et attractive?
Oui, en fait, nous, on n'a pas de Chief Happiness Officer. On a en revanche des enquêtes clients, des enquêtes collaborateurs régulièrement pour savoir comment est-ce qu'ils se sentent, etc. On fait un certain nombre d'actions aussi pour se réunir à distance, pour faire, par exemple, moi, je prends la parole sur l'ensemble de mes collaborateurs toutes les semaines, c'est cet après-midi, tous les vendredis, pour leur donner de l'information, pour répondre à leurs questions. Donc, c'est une forme de proximité. On est Great Place to Work. On est en train de changer de locaux à Paris pour avoir des locaux beaucoup plus agréables, avec des couleurs très sympathiques, des endroits pour déjeuner et se réunir, avec des coins canapés, fauteuils. Donc, de rendre, en fait, le lieu de travail joyeux. Donc, c'est plus qu'un Chief Happiness Officer. C'est vraiment des actions très concrètes et très régulières pour que nos salariés se sentent bien chez nous, pour que les meilleurs restent, bien sûr, et puis aussi pour attirer des talents, parce qu'il y a quand même un enjeu de compétition sur les meilleurs talents en France. Voilà.
Ouais,
donc, on recrute en France. Il y a aussi quelque chose qui est essentiel pour moi, c'est qu'on ne sous-traite rien. Donc, rien n'est envoyé en Inde ou dans des pays à bas coût. Nos clients sont en France, ils payent leurs impôts en France. Donc, moi, je sens le devoir, en tant que patronne de cet ensemble, de recruter des collaborateurs, de leur offrir des CDI sur le territoire français, en région comme à Paris, parce que Paris, c'est bien, mais il y a aussi des régions. Il y en a beaucoup de nos clients qui sont en région. Donc, c'est aussi, si vous voulez, un patriotisme économique qui me tient beaucoup à cœur.
Vous me disiez tout à l'heure, Virginie Fauvel, juste avant de prendre l'antenne, c'est effectivement que c'est aussi un atout aujourd'hui d'avoir ces emplacements multiples. Nice, Clermont-Ferrand, ouais. Paris, on le sait aujourd'hui, c'est la guerre des talents, notamment sur des profils de tech. Justement, comment vous mettez ça en avant ?
Eh bien, en fait, c'est un atout qui est majeur. On a beaucoup maintenant de tech, hein, de développeurs qui disent « moi, je veux quitter Paris, je veux arrêter de passer ma vie dans un RER ou dans un métro, en tout cas trop longtemps, avec cette crise sanitaire ». Et donc, le bénéfice, c'est qu'on a des talents qui aujourd'hui veulent le week-end se promener dans les montagnes d'Auvergne, avoir un chien avec une maison, et c'est quand même plus difficile quand même quand on est à Paris, ou profiter de la mer et de Sophie Antipolis, des Alpes qui sont juste au-dessus. Et donc, l'attractivité de notre groupe, avec ces deux pôles en région qui sont des pôles importants, comme Olivier le soulignait, nous permettent d'attirer des nouveaux talents qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point positif de la crise Covid. Il faut quand même qu'on garde un petit peu d'optimisme.
Olivier, justement, sur ces bouleversements-là, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens qui, avec le télétravail, avec le confinement, sont en train de réévaluer leur rapport à la ville, justement, à la capitale aussi, se disent, mais peut-être, est-ce que c'est finalement plus sympa, tout sommet, d'être effectivement à côté des volcans d'Auvergne ou près de la Côte d'Azur ?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous le mesurons également en matière de conseils, puisque les modes d'acquisition, en tout cas les biens qui font l'objet d'un intérêt des investisseurs immobiliers, sont en train d'évoluer. On voit bien qu'on est sur un concept mixte où les résidences principales doivent devenir quasiment des résidences secondaires pour le bien-être des familles. Et c'est vrai qu'à partir de là, en Auvergne, nos collaborateurs sont vraisemblablement mieux traités qui ne le sont ou qui ne le seraient à Paris parce que les conditions environnementales ne seraient pas réunies. C'est vrai qu'il est très facile en Auvergne, mieux encore au bord de la mer. Évidemment, c'est un grand plaisir pour ceux qui sont associés à Antipolis de pouvoir en profiter. Ce sont des conditions qui sont préférables et qui permettent vraisemblablement d'ailleurs ensuite aux personnes, lorsqu'elles sont au boulot, d'être parfaitement concentrées parce que la charge mentale est peut-être un peu plus légère ou un peu plus facile à absorber qu'à Paris.
Oui, tout à fait. Donc, voilà, en tout cas, pour ce premier point, Virginie, vous l'avez dit, Virginie Fauvel.
Donc, le premier pilier, c'est vraiment sur les clients, voilà, ouais. Sur les collaborateurs.
Sur les salariés, collaborateurs.
Voilà, les salariés. Le deuxième, c'est sur la techno. Donc, on veut être une société de tech très à la pointe. Donc, on a énormément de projets de transformer nos produits qui sont parfois on-premise en SaaS, hein, c'est-à-dire de pouvoir utiliser un navigateur Internet pour accéder à nos produits et ne plus les stocker sur le disque dur. Donc, le produit phare Big que tout le monde connaît dans les métiers du patrimoine est aujourd'hui en pilote chez un client, un très grand client en SaaS, et on est en train de migrer Big en SaaS. On va ouvrir cela pour quelques CGP à partir de septembre et le déploiement va démarrer à partir de novembre 2021. Donc ça, on a revu complètement les interfaces de Big qui avait un petit peu vieilli, hein, disons. Et donc, c'est des interfaces qui sont vraiment au goût du jour très, très belles. Voilà. Un autre exemple, vous avez probablement vu sur les utilisateurs d'O2S, hein, qui sont nombreux parmi les CGP, hein, les deux tiers des CGP utilisent O2S. On a refondu O2S il y a 3 semaines et aujourd'hui, l'interface d'O2S, pareil, toute l'ergonomie a été revue au goût du jour. Donc ça, c'est tout un pan de modernisation technologique. Et puis, bien sûr, on va intégrer l'offre pied droit à O2S et aussi à Big. Et puis, on a tout un projet d'apéisation de notre offre pour pouvoir se brancher directement sur les sites de certains très gros CGP ou certaines très grosses plateformes. Donc, deuxième pilier, donc un pilier très technologique. Et le troisième pilier, qui est un pays client, donc orienter la culture client. Donc, avec la création de cette direction client depuis janvier, avec la mise en place de NPS, avec la mise en place de réunions avec les clients pour les associer à la construction des nouveaux produits, à l'évolution de notre gamme, ce qui est quand même très, très nouveau, avec des questionnements réguliers, avec une proximité qui est renforcée avec nos clients. Moi, chaque jour, je vois 2 à 3 CGP pour bien être proche d'eux. Et là, aujourd'hui, à Nice, j'ai le plaisir de rencontrer JS Investissement qui vient déjeuner avec nous sur notre site de Sophie Antipolis. Donc, c'est vraiment très important pour nous d'être en proximité forte avec nos clients. Donc, une stratégie en 3 piliers, un pilier pour les salariés, un pilier sur la tech et un pilier sur les clients.
Olivier, un petit commentaire justement sur ces différents piliers. Donc, on a parlé effectivement de l'attractivité. Sur après, le côté technique, c'est des choses sur lesquelles vous aviez déjà travaillé hein, chez Fidroit, justement, rendre le produit beaucoup plus accessible.
Alors, à l'évidence, nous le voyons avec la période en cours que la digitalisation n'est pas un effet de mode, mais une nécessité. En même temps qu'elle va représenter un atout demain pour les professionnels, qu'ils soient conseillers en gestion de patrimoine ou établissement bancaire, dans la mesure où ils pourront alors, par un gain de temps et une efficacité renouvelée, avoir plus de temps à consacrer à leurs clients. Sur les propos de Virginie, ce qui nous a séduit et ce qui a participé, je dirais, de l'intérêt de l'ensemble des équipes à l'élaboration de cette stratégie, c'est que vous l'avez mesuré, elle associe 3 piliers, les équipes, l'entreprise en tant que telle et les clients. Et c'est un trépied qui lie des éléments, à mon sens, qui sont indissociables si nous voulons assurer le succès et avoir un alignement des planètes de chacune des entités, de chacune des personnes, à la fois des équipes en interne et de nos clients. Et c'est vrai que ce qui est extrêmement enthousiasmant dans la période que nous connaissons et cette aventure que le groupe est en train de lancer, tient au fait qu'on peut devenir, en tout cas on va s'attacher à devenir, une véritable rampe de lancement pour les professionnels en ayant cette ambition de devenir une tech fin de référence. Et c'est vrai que quand vous observez un petit peu les évolutions en cours, nous constatons que les systèmes évoluent aujourd'hui, une migration vers la notion de service et leur démocratisation. Alors, on le voit à différents niveaux, bien au-delà de nos sphères. Vous pouvez acheter des billets d'avion sur Internet quand les avions décollent, évidemment. Vous pouvez obtenir la rédaction de statuts. De la même façon, nous constatons via le net qu'il y a des mises en relation aujourd'hui entre particuliers et professionnels. Vous pouvez bénéficier du développement de prestations intellectuelles. On connaît en ligne sur le médical ou dans le domaine juridique. Et je crois que le groupe symbolise toutes ces réalités. Et pour certaines, elles peuvent être encore en devenir, mais ce sont des travaux qui sont en cours. Et comme je me le plains à le dire souvent, l'avenir du digital, c'est l'humain. Ce que représente peut-être davantage Fidroit. Donc, quand vous associez la composante Arvet et la composante Fidroit, ça permet effectivement d'avoir une stratégie extrêmement riche, mais dont les professionnels, immanquablement, vont profiter.
Alors, vous le savez, messieurs, dames, évidemment, il n'est de richesse que d'hommes et de femmes, pourrait-on ajouter, puisque vous nous avez parlé, hein, Virginie Fauvel, de l'arrivée d'une nouvelle directrice générale déléguée pour justement développer cette activité, une activité stratégique orientée client. Olivier le souligne à l'instant, effectivement, le client, c'est la base. Pourquoi renforcer justement cet ancrage avec vos clients?
Parce que je pense que Olivier l'a souligné, l'avenir du digital, c'est l'humain. J'aime beaucoup cette phrase. Et Harvest et Fidroit, c'est effectivement une société technologique, une tech for fin, comme on dit, ou une fintech. On dit tech for fin pour bien souligner qu'on est B2B et non retail B2C. Et pour faire évoluer nos produits, on pense qu'il ne faut pas avoir une vue uniquement technologique. Alors bien sûr, vous savez, on est régulé par la CPR, on a un agrément ACPR, on a énormément de tests d'intrusion pour vérifier que nos systèmes sont extrêmement sûrs, etc., en termes de cybersécurité. On a des users, des UX designers qui nous font des interfaces magnifiques. Donc, tout ça, on
c'est
a cette technologie.
C'est l'expérience utilisateur, hein, UX designer.
Voilà, absolument. Okay. Donc, sur les 330 collaborateurs d'Harvest Fidroi, on a 200 développeurs, ce qui est très important. On a 100 experts du patrimoine, donc soit en termes de fiscalité, en droit, spécialistes de la retraite. Donc, ces deux coulissent bien. Mais on ne peut pas voir que cela à travers le prisme soit de la technologie, soit de l'expertise. Il faut ajouter l'expérience client. Et donc, on veut mettre vraiment le client au cœur des développements des nouveaux produits. Hier, j'avais un CGP qui me demandait des évolutions dans O2S qui semblaient tout à fait pertinentes. On a passé une heure et demie avec ce CGP. Et bien, derrière, on a fait un mot d'explication aux responsables de produits pour faire évoluer O2S conformément au désir du client. Donc, je trouve que ça nous permet, parce qu'on voit qu'on est dans un monde qui est de plus en plus complexe, où la régulation est forte, où il y a des offres un petit peu de partout. Donc, plus vous répondez aux attentes de vos clients, plus vous êtes sûr de répondre à l'attente.
Du coup, j'ai l'impression que c'est pratiquement, pour illustrer vos propos, c'est comme une co-création. On parlait tout à l'heure du mode SaaS qui est déployé en bêta-test chez un client, d'autres qui vous parlent de ce dont ils ont besoin. On a besoin de ce retour d'expérience aujourd'hui.
Exactement. En fait, je n'utilise pas le mot co-construire qu'on a tellement entendu, qui est usé. C'est comme le Chief Happiness Officer. Donc, alors qu'on peut dire construire ensemble, qui est tout à fait français et pas du tout désuet. Donc, c'est effectivement la co-construction dans le terme un peu hype et sexy. En vérité, en bon français, c'est construire ensemble avec nos clients.
Bon, c'est pas mal. Olivier, donc qui je le rappelle, n'est pas le Chief Happiness Officer.
Non, je n'ai pas cette prétention. Et je crois que la réponse de Virginie, moi, m'inspire beaucoup. Peut-être que les entreprises qui ont besoin d'un Chief Happiness Officer constatent que leurs équipes ne sont peut-être pas complètement épanouies. Le sentiment que j'ai depuis quelques semaines en voyant celle d'Harvest, au même titre que Virginie a déjà pu être confrontée ou côtoyer les équipes de Fidroi, se rendre compte que les équipes sont plutôt joyeuses. Et donc, peut-être avons-nous moins besoin que d'autres de ce type d'intervenants, parce que c'est au quotidien, en réalité, que ces choses-là se règlent.
Je crois que les choses doivent être naturelles. Olivier, aujourd'hui, c'est quand même compliqué. J'imagine qu'une partie des équipes est en télétravail. En plus, le gouvernement lance injonction pour pouvoir encore plus peut-être rester à la maison. On sait qu'il y en a qui souffrent, il y en a à qui ça convient très bien. Bon, des profils tech un peu geek, on peut se dire finalement qui codent chez eux ou au bureau, c'est pareil, c'est peut-être même plus confortable s'ils sont équipés. Comment vous négociez aujourd'hui cette période quand même très compliquée pour garder ce lien? Et là, je parle à vous deux. C'est vraiment un enjeu de management qui est un défi pour vous.
Je pense que la proximité, vous voyez, la semaine dernière, j'étais sur mon deuxième site parisien. Bon, moi, je vais travailler tous les jours, donc je vois mes équipes qui sont sur le bureau. Aujourd'hui, je suis avec mes équipes à Nice. Lundi, je vais retrouver Olivier à Clermont. On va échanger avec l'ensemble des collaborateurs. Donc, je pense que c'est aussi important de montrer que voilà, on est présent. Et d'autre part, il y a cette proximité où j'ai une prise directe avec l'ensemble des collaborateurs, je vous dis, toutes les semaines en visio. Donc, ça met une proximité. Et je crois qu'il faut qu'on soit tous très, très attentifs à la souffrance et à la détresse de certaines personnes qui n'en peuvent plus d'être chez elles. Et je trouve que le gouvernement est tout à fait raisonnable actuellement, compte tenu de la situation sanitaire, de ne pas reconfiner les gens. Parce que je pense que les impacts psychologiques, au-delà des impacts économiques, vont être considérables sur un certain nombre de personnes. Et même si certains développeurs sont bien chez eux, etc., il y a aussi un risque quand même d'isolement et de déconnexion au monde réel qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc moi, tous les sites restent ouverts. On fait très attention que la jauge reste basse. Donc c'est plutôt une vingtaine de pourcents de salariés qui sont là et ils tournent. Je passe mon temps à ouvrir les fenêtres, donc tout le monde a très froid. on se lave les mains tout le temps. On fait attention de ne pas manger en face à face. Donc, on autorise les collaborateurs à manger sur leur poste de travail. Mais bon sang de bois, on ne peut pas laisser les gens enfermés chez eux pendant un an, quoi.
Olivier, comment ça se passe du côté de Clermont? Bon, vous avez le bon air pur, heureusement, pas très loin, des gens qui peuvent aller se balader en montagne le week-end.
Non, évidemment, ça suppose de notre part un investissement de management de proximité plus important qu'il ne l'est, je dirais, dans des conditions normales. Et c'est un moyen pour conserver un lien pour des personnes qui sont restées distantes, alors que quand vous êtes dans une aventure comme celle Arvest Fil Droit, nous sommes dans un processus exploratoire. C'est-à-dire que nous sommes en train de créer, d'innover, d'imaginer. Et à partir de là, l'isolement n'est absolument pas approprié. Au-delà, effectivement, des contraintes sanitaires qu'a rappelé Virginie, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir ce lien pour travailler de manière collaborative. Et donc, ça suppose du management, ça suppose des points extrêmement réguliers. Et par rapport à ces fluctuations politiques que vous rappeliez, Fabrice, eh bien, ça nous met face à une forme d'exigence qui est l'agilité et la souplesse. Et comme c'est un des enjeux pour nous, pour notre avenir, eh bien, nous sommes face à cette épreuve qui nous impose de l'agilité et de la souplesse. Et finalement, c'est quelque chose qui nous ressemble assez bien, ce qui nous permet de nous sortir dans des conditions plutôt positives.
Virginie Tufauvel, on a parlé des collaborateurs. Je voudrais parler, avoir un mot, bien sûr, aussi pour vos clients qui utilisent au quotidien vos produits, qui doivent eux-mêmes rassurer leurs propres clients, qui gèrent les patrimoines des uns et des autres. Comment on garde le lien aussi avec ces clients? Vous avez parlé tout à l'heure de webinaires. On sait que les événements, on était habitués aux très beaux événements Fil Droit, aux très beaux événements Arvest. Il n'y en a plus depuis un an. Comment on garde le contact? Comment on mobilise aussi sa communauté de clients?
Oui, alors ça, c'est vraiment une question qui est clé. Donc, on a tous les outils, effectivement, de connexion pour faire des visios avec nos clients. On voit aussi régulièrement nos clients qui ont envie de retrouver un lien. Donc, on fait aussi très attention. Mais moi, je vois des clients pour de vrai plusieurs fois par jour. Donc, y a et à la fois de la technologie, des webinaires qu'effectivement on met en place de façon très régulière. On communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux pour donner de l'information, LinkedIn et Twitter plus particulièrement. Et on prend des nouvelles aussi de nos clients pour savoir si tout va bien. On leur offre aussi régulièrement des offres promotionnelles pour les aider dans ces situations-là. Là, avant Noël, on était en signature électronique gratuite, par exemple, pour les aider faire des deals à distance et aussi les habituer progressivement à utiliser de la signature électronique. Parce que ce Covid, on le dit souvent, ça a permis une accélération de la digitalisation d'un grand nombre de métiers, dont les CGP. Donc, ce que je dis à mes équipes, c'est que plus que jamais, il faut être très attentif à nos clients et plus que jamais, et aussi les uns avec les autres, en termes de salariés, il faut avoir une forme de bienveillance parce que certains peuvent être en situation de stress ou avoir de la peine avec des décès ou des maladies dans leur famille. Donc, plus que jamais, il faut être très attentif à ça. Voilà.
Olivier, vous voulez rajouter un petit mot justement?
Non, je partage évidemment tout ce qui a été dit par Virginie. C'est vrai que nous avons la chance au travers de notre système de hotline d'être au contact d'environ 150 cabinets par jour, ce qui est l'occasion justement aussi de prendre le pouls, de pouvoir échanger. Et on se rend compte qu'au même titre que les CGP ont su apporter, je dirais, de la chaleur ajoutée à leurs clients, alors que la distance parfois ne le permettrait pas naturellement, nous nous attachons à avoir ce même type de relation avec les professionnels. Et c'est par cette proximité que nous arrivons à mesurer ce qui peut leur être utile. Ce qui nous a amené à l'identique d'Arvest de proposer dans un moment où il fallait de la solidarité, de mettre à disposition Finet à tous nos prospects de telle manière qu'ils puissent apprendre à travailler à distance et que ceux qui étaient finalement encore un peu en retard dans le processus de digitalisation se familiarisent avec des outils nouveaux qui leur permettront demain d'être efficients parce que malheureusement, la période que nous connaissons semble devoir se renouveler encore pendant quelques mois.
On arrive bientôt au terme de cette émission. J'ai une dernière question pour vous, Virginie Fauvel. Vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, de patriotisme économique, le fait de, d'être ancré sur les territoires, de pas, c'est vrai, quand on a 200 tech, informaticiens, développeurs à payer, on pourrait tenter de délocaliser, comme certains l'ont fait en Inde, dans d'autres pays à bas coût. Ce n'est pas votre cas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, sur votre idée du patriotisme économique et est-ce que vous pensez que, comme d'autres, aujourd'hui c'est à la mode, mais pas que, vous pourriez devenir une entreprise à mission?
Alors, c'est une très bonne question. On réfléchit à devenir une entreprise à mission. Donc, je ne sais pas si on ira vers cela, mais j'ai lancé un grand programme d'ESG. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de ce qui est social, responsabilité sociale, économique, écologique.
Et de gouvernance.
Et de gouvernance, voilà, chercher le G, je me disais, la gouvernance.
Le G
voilà.
Est compliqué. Ouais.
Donc, on réfléchit à cela. Moi, je crois au patriotisme économique depuis assez longtemps. J'ai eu des expériences d'offshore qui, finalement, sur le PowerPoint, où ce que disaient les consultants, ça faisait des économies qui étaient considérables. Et à la fin, entre les déplacements, la qualité qui n'est pas toujours au rendez-vous, je ne suis pas sûre que ça fasse de la qualité à la fin. Pour de vrai, et je pense aussi que voilà, moi la France, elle m'a formée, elle m'a soignée, elle m'a nourrie. Aujourd'hui, je dirige une entreprise dont mes clients sont en France, payent leurs impôts en France, et je trouverais ça très indécent, et je pèse mes mots, de utiliser l'argent de mes clients pour créer de l'emploi ailleurs et de faire que la France ne se redresse pas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, dans la crise économique dans laquelle on est, la crise sociale qui va probablement arriver, il est plus qu'essentiel que chacun prenne ses responsabilités. Et moi, être CEO de cet ensemble, bah, c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais c'est surtout beaucoup de devoirs. Et le premier devoir, c'est de créer de l'emploi en France et de produire des produits de qualité pour mes clients. Et je pense qu'en France, on a des ingénieurs incroyables, on a des spécialistes de patrimoine incroyables. Et ben, embauchez-les et formons-les et payons nos impôts en France, soyons contents de payer nos impôts. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est ancré et jamais je n'externaliserai une activité en dehors du territoire français. Et si on part à la conquête européenne avec Olivier, on créera des emplois en Europe, mais pour nos clients français, ce sera une solution qui est française.
Et la tech restera en France. Ben voilà un beau message, effectivement, surtout dans une période qui s'annonce extrêmement compliquée avec le chômage, la crise économique. Chaque emploi conservé ou gagné, en tout cas, ou donné, ou offert, hein, effectivement, à des gens compétents, eh bien, c'est formidable si ça peut rester, effectivement, en France. Un
et
grand
on
merci.
Recrute.
Et donc, le mot est passé. En plus, vous recrutez, puisque la croissance est forte. Elle est là, comme
sur les trois
l'ensemble
sites,
des métiers.
Hein, sur les trois sites.
Sur les trois sites, voilà, c'est à la carte. Paris, Clermont, Nice, ben voilà, que demander de plus. On a tout, mer, montagne, capitale. C'est parfait. Un grand merci à vous deux d'avoir participé à cette émission, de nous avoir présenté ce nouvel ensemble qui, on le sait, eh bien, va marquer évidemment son empreinte dans cet univers de la gestion de patrimoine. Merci Virginie Fauvel. Je rappelle que vous êtes la nouvelle patronne, la CEO d'Harvest. Et puis, merci à Olivier Rosenfeld également, à la tête de Fidroit. Je serai ravi, évidemment, de vous accueillir en studio. Hein. On vous attend. Alors là, c'est à Paris, mais ça a une autre saveur et on en sera ravi. Merci à Baptiste Plouchard à la technique. Et pour une prochaine émission de l'Hebdo Patrimoine, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.
L'Hebdo Patrimoine. L'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Sophie Bernard.